radio de la paix. Il est 12h. Le journal du midi. César Yao.
Bonjour à tous, le sommaire de ce mardi midi. L'ONG Indigo Côte d'Ivoire a organisé à Bouna un atelier de restitution des travaux d'études sur la cohésion sociale dans le cadre de son projet initiative de paix autoporté dans la région frontalière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso et le Ghana. Des leaders communautaires et des unités de défense et de sécurité ont à l'occasion élaboré des pistes d'action à mener pour le maintien durable de la paix et de la cohésion sociale dans la région. La conception sociale des hommes en matière de contraception, c'est le thème d'une causerie de bas qui a eu lieu récemment au siège du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre à Cocody, à Abidjan. Les participants se sont exprimés sur leur compréhension de la contraception et ont pris l'engagement d'être aux côtés des femmes pour accroître la sensibilisation. Dans l'actualité internationale au Mali, la mission de l'ONU a entamé son retrait définitif de Kidal. Et en fin d'édition, Francis Cassé recevra, dans le cadre de l'invité de la rédaction, professeur Nguessam Mohamed, enseignant d'histoire contemporaine à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour décrypter les sujets régionaux dont les présidents ivoiriens et sénégalais affirmaient avoir parlé lors de la récente visite de Macky Sall à son homologue Alassane Ouattara à Abidjan. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. En ouverture de ce journal, direction la région du Bonkani où l'ONG Indigo Côte d'Ivoire a organisé à Bouna un atelier de restitution des travaux d'études sur la cohésion sociale dans la région dans le cadre de son projet initiative de paix autoportée dans la région frontalière de la Côte d'Ivoire avec notamment le Burkina Faso et le Ghana et des leaders communautaires venus de Bouna et de Doropo ainsi que les responsables des unités de défense et de sécurité ont à l'occasion élaboré des pistes d'action à mener pour le maintien durable de la paix et de la cohésion sociale dans cette région-là. On en parle avec Jérôme Kouassi, notre correspondant sur place.
Quelques mots qui minent la cohésion sociale dans la région du Bonkani, énumérés ici par Somme Eri Sarah Angeline, présidente des femmes et de l'ULGTR des ancêtres de Doropo.
Problème de cohésion sociale, il y a le problème de bicéphalie de chefs dans une communauté. Le manque de confiance de la population envers les représentants de l'État.
Dans la perspective que les communautés elles-mêmes trouvent des pistes d'action à explorer. Dacier Valentin, secrétaire général du comité de paix du Bonkani.
Et les solutions qui seront trouvées soient des solutions venant de nous-mêmes.
Des initiatives envisageables à traduire en pistes d'action pour maintenir la cohésion sociale dans la région ont été préconisées par les participants.
Il y a des communautés. Notre souci, c'est de les mettre tous ensemble. On ne travaille plus par communauté. C'est ça qu'on appelle la cohésion.
La gestion des conflits, déjà ça existe, mais il faut renforcer les capacités des chefs de village.
Renforcer aussi la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations, ainsi que l'administration dans toute sa généralité.
Ces travaux d'étude pourront servir de support aux actions de l'État, selon Anne-Christelle Zerbeau, la chef d'équipe du projet.
Pour permettre au pouvoir public de pouvoir récupérer ces informations, ces résultats, pouvoir améliorer les politiques, l'État est vraiment montré du doigt. Donc comment améliorer les rapports des représentants de l'État et la communauté? C'est de renforcer la cohésion sociale et comment on fait pour qu'on s'entende et qu'on avance ensemble.
Le projet initiative de paix autoportée dans les régions frontalières de la Côte d'Ivoire de l'ONG Indigo est à la fois implémenté dans les régions du Bonkani et du Kyologo, des zones susceptibles de servir de terreau fertile à l'extrémisme violent. Jérôme Kouassi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Mobilisation des recettes fiscales à présent. La Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire appelle aux opérateurs des plateformes de vente en ligne et plateformes numériques que, conformément à l'annexe fiscale 2023, elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Comment leur expliquer cette décision? Décryptage avec Dr Germain Cramo, enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny, également chercheur à la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES.
Il faut dire que la TVA est un impôt indirect sur les dépenses de consommation. Donc cette taxe est payée par le consommateur. La taxe est collectée par l'entreprise qui reverse à l'État. Cette mesure est prise aussi pour les questions d'équité fiscale. Il y a certaines entreprises traditionnelles qui payent la TVA et pour ces entreprises qui opèrent à travers des plateformes électroniques, certaines entreprises ne payent pas encore la TVA pour certaines. Donc cette mesure vient d'abord pour élargir l'assiette fiscale et de deux, pour aussi régler cette affaire d'équité fiscale.
Est-ce que de manière opérationnelle, la DGI a les moyens d'appliquer donc cette TVA?
Comme vous le soulevez, ce n'est pas aisé d'appliquer cette TVA et je pense que c'est ce qui a fait que les autorités ont mis un peu de temps avant d'appliquer cette mesure. Il faut reconnaître que cette activité, c'est une activité en pleine expansion, donc une source potentielle de recettes fiscales. On estime un peu le e-commerce environ 300 milliards de francs CFA. Donc, il est nécessaire que nous puissions trouver les moyens nécessaires pour pouvoir mobiliser ces recettes. C'est vrai qu'il ne serait pas facile parce que nous sommes dans une économie où le paiement se fait en espèces. Il y a beaucoup d'acteurs informels qui font le commerce, mais qui n'ont pas d'existence pour être formellement identifiés. Donc, ce sera à la DGI d'avoir d'ingéniosité pour pouvoir amener tous ces acteurs-là à avoir une identification fiscale. Parce que pour pouvoir payer la TVA, il faut que ces entreprises puissent être identifiées. Donc voici un peu les défis qui s'offrent à la DGI.
Voilà, docteur Germain Cramo, enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny, également chercheur à la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, répondait aux questions de Jean-Claude Comé. La conception sociale des hommes en matière de contraception, c'est le thème d'une causerie débat qui a eu lieu récemment au siège du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire. À Cocodier Frata, une activité co-organisée avec le collectif des activistes pour la lutte contre les violences basées sur le genre en collaboration avec l'ONG internationale Ingerder Hilf. Les participants se sont exprimés sur leur compréhension de la contraception et ont bénéficié de formation sur cette notion. Ils ont par la suite pris l'engagement d'être aux côtés des femmes pour accroître la sensibilisation. Reportage signé Ghislain Koulibaly.
On parle de contraception de sac avec nos femmes.
Des hommes visiblement passionnés discutent ici des questions liées à la santé de la reproduction.
On peut élargir pour dire dans la société, les activités des ONG ciblent beaucoup plus les femmes en réalité.
Et pour mieux s'imprégner des notions, la causerie débat est suivie d'une petite session de formation.
On a besoin de vous dans le soutien émotionnel. Quand une femme prend une méthode de contraception, quand elle t'informe, que quand vous partez, la sage-femme explique que non, elle va avoir des règles, elle va avoir mal à la tête, mal au dos. Elle peut avoir compris quelque chose. Toi, si tu apprends, vous avez deux informations.
L'implication des hommes fera bouger les lignes, nous dit Kadi Cissé, sage-femme.
L'homme est le chef de famille. C'est l'homme qui a cette capacité de pouvoir gérer, de dire non, c'est moi qui donne, puisque les femmes ne sont pas tout le monde qui sont autonomes, qui disent moi, mais pas aller prendre ma méthode de contraception, il faut que toi, tu me donnes l'argent. Pour partir. Donc du coup, si toi tu dois donner là, il faut que toi tu sois sensibilisé, tu sois informé pour l'aider à prendre de bonnes décisions en rapport avec sa santé.
Pour l'équilibre et l'harmonie dans la famille, le choix des méthodes contraceptives doit se faire de façon unanime par les deux partenaires, selon l'expert en genre, Ghislain Koulibaly.
Il faut une parentalité responsable. Il faut être au fait des méthodes de contraception, mais il faut aider même et être d'accord aussi avec le choix.
L'un des participants, Badjiman Kofi Jean, repart convaincu.
La contraception, pour qu'elle soit vraiment effective, il faut vraiment l'implication des hommes. Le couple ne concerne pas que la femme.
Notons qu'en Côte d'Ivoire, la loi sur la santé sexuelle et de la reproduction attend encore d'être adoptée.
Éradiquer la poliomyélite de la Côte d'Ivoire, en tout cas c'est l'engagement du gouvernement au travers du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle accompagné de ses partenaires techniques et financiers. Le lancement officiel de la deuxième phase a eu lieu à EBMP dans la commune d'Abidjan, hier dans la commune d'Anyama, précisément hier lundi. On en parle avec Mel Emmanuel.
C'est par une série d'allocutions que s'est ouvert le lancement officiel de la deuxième phase des Journée nationale de vaccination contre la poliomyélite. Une initiative capitale pour la population locale, nous dit la maire de la commune d'Anyama, Fatim Bamba.
Cette cérémonie revêt à nos yeux une importance capitale car la poliomyélite continue de faire beaucoup de victimes dans les rangs de nos enfants. La vaccination reste aujourd'hui la voie privilégiée pour se protéger contre la maladie.
Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ungu Ngou Demba est lui revenu sur le contexte de cette activité.
La poliomyélite est invalidante. Vous savez que quand cette maladie touche les enfants, ces enfants ont un affaiblissement des membres inférieurs. Depuis quelques années, on a constaté quelques cas et on fait donc plusieurs passages pour éradiquer définitivement cette maladie.
En ce sens, les efforts déployés par l'État ivoirien pour l'éradication de la poliomyélite en Côte d'Ivoire sont en passe de connaître un résultat concluant, selon la coordinatrice Afrique du Rotary International pour la lutte contre la poliomyélite, Marie-Irène Richemont-Awa.
Il n'y a pas de raison que nous n'atteignions pas notre but. Nous sommes déterminés à soutenir les efforts du gouvernement jusqu'à ce que la polio soit reléguée au musée des oubliettes. Et nous sommes sur la voie.
Cette cérémonie de lancement des journées nationales de vaccination s'est achevée par l'administration de gouttes à des enfants dans un ménage du village des Bimpé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle.
Une culture à présent, la fête de l'Abissa, célébration du nouvel an chez le peuple Nzima, est entrée dans sa phase festive. Depuis le dimanche 29 octobre dernier, une semaine durant, la population Nzima et leurs différents invités marquent le retour aux sources par le développement et évoque de nouveaux objectifs autour de la danse sacrée. Immersion à Grand Bassam avec notre spécialiste Didier Blé.
Démarré le 22 octobre dernier par le Siedou, la retraite du tambour sacré, les festivités, elles, ont débuté ce dimanche. Le thème retenu pour cette année est l'Abissa de Nzima, d'Aboadé au Ghana jusqu'à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Jean-Baptiste Amichia, président du comité d'organisation de l'Abissa.
Replacer l'Abissa, non seulement pour le peuple Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, mais dans le grand peuple Nzima Kotoko qui part du Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, c'est vraiment une mission particulière parce qu'elle permet de replacer cela au-delà des frontières qui ont été héritées de la colonisation. Mardi, nous aurons une délégation qui viendra du Ghana pour participer à cette grande fête du peuple Nzima.
Les forces vives, elles, ne se font pas prier chaque année pour être présentes. Entre trouvailles et projets de développement, Joséphine Adoukofi, présidente de la mutuelle de développement économique de Nzima Kotoko.
En ce moment-là, nous devons approfondir ce vivre ensemble. Nous devons, en tant que frères Nzima, de nous retrouver, voir ensemble comment nous pouvons apporter un plus à notre communauté. C'est en cela que la mutuelle intervient.
15 jours de célébration pour une belle occasion de réconciliation. Simon Kounin, chargé de communication.
L'Abissa, c'est un instrument pour nous qui nous permet de nous réconcilier avec ceux avec qui nous avons des différends. La seule occasion qu'on a à se retrouver et à laver nos linges sales en famille.
L'Abissa, c'est également l'occasion de faire la critique sociale et tout le monde est visé, royauté, autorité et cadre. Cette édition 2023 se referme le dimanche 5 novembre par le retrait du tambour sacré, le message du roi et les réjouissances populaires.
Dans l'actualité internationale, il n'y aura plus à partir de ce 31 octobre 2023 un seul casque bleu de l'ONU à Kidal, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. MINUSMA a entamé aujourd'hui, mardi matin, donc son retrait définitif de cette ville du nord du Mali sous contrôle des rebelles du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement qui ont repris les armes. Une page se referme donc et une autre s'ouvre, celle de l'avenir de l'ex-base de la MINUSMA à Kidal. Quelques heures après le départ de ce casque bleu, l'armée malienne n'était toujours pas sur place. Elle a pris une position à 100 km plus au nord et bien de leur côté, les rebelles de la coalition du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement contrôlent la ville, mais ils savent que les troupes régulières ont bien l'intention d'avancer vers eux. Des affrontements ne sont pas à exclure. Retour en Côte d'Ivoire pour parler cette fois de sport à Guessila. Silas Meke, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, rencontré hier lundi dans les locaux de la Direction générale des sports tout le mouvement sportif ivoirien. Il invite les uns et les autres à rester unis et à se mobiliser et à travailler également en équipe soudée pour la réussite de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'écoutons.
Dans moins de 85 jours, notre pays, la Côte d'Ivoire, terre d'espérance et d'hospitalité, sera sous le feu des projecteurs à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'une des missions qui nous a été confiée est de réussir le pari de l'organisation de cette CAN 2023. Êtes-vous prêt à relever ce pari?
Oui!
Alors, si vous êtes prêt à relever ce pari, je voudrais vous inviter à rester unis et mobilisés pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif qui cristallise déjà toutes les passions, aussi bien dans notre pays que dans toute l'Afrique, voire dans le monde entier. Nous devons travailler ensemble, avec acharnement, en équipe soudée, pour relever ce défi. Je voudrais pouvoir compter sur la mobilisation exemplaire de tout le monde sportif autour de la Fédération Ivoirienne de Football, qui est en point de mire dans l'organisation de cette grande fête de football. Nous devons également tout mettre en œuvre pour amener nos populations à s'approprier cette CAN 2023, de manière à en faire, dans un cadre de vie exemplaire, la CAN de l'hospitalité jamais organisée. Que votre dynamisme, que votre patriotisme, que votre sens du devoir bien accompli soit mis en avant pour qu'au soir du 11 février 2024, nous sortions tous grandis et couronnés de lauriers.
Voilà, à l'instant, Adjé Silas Metch, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie. Le président de la conférence des présidents de Fédération sportive de Côte d'Ivoire, Soumaoro Mamadou, dit suivre la feuille de route de la tutelle, mais avec des recommandations en appui.
Nous sommes en sport. Je pense qu'avec lui, nous allons faire beaucoup de choses parce qu'il est enthousiaste et il est déterminé à faire des choses. Donc nous allons le suivre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus faire des doléances, nous ne sommes pas venus faire des revendications. Nous sommes juste venus pour l'écouter, pour qu'il nous donne une feuille de route. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il a expliqué, on a compris. On va l'approcher pour prendre la feuille de route et désormais, on va se mettre en mouvement. Les Ivoiriens aiment leurs équipes nationales sportives. Mais il n'a pas mis des stratégies en place pour essayer d'associer tout le monde à cette victoire-là. Par exemple, aujourd'hui, nous demandons au ministre de coopérer avec la CONCACAF, véritablement de travailler avec le comité d'organisation de la CAN. Et ensuite, de collaborer avec la FIFA, qui est le détenteur et le propriétaire de la CAN. Mais ensuite, ne pas oublier les présidents des fédérations. Parce que les fédérations sont partout. À l'intérieur, nous avons des ligues, nous avons des clubs à l'intérieur. C'est nous qui pouvons faire bouger la population. Donc, ils acceptent de travailler avec les fédérations. Nous sommes disposés à leur donner des pistes. Vous voyez, moi, j'étais dans le comité d'organisation de Côte d'Ivoire 84. Donc, vraiment, par rapport à certaines choses, j'ai certaines expériences que je peux mettre à la disposition des uns et des autres. Mais on sent que les fédérations ne sont pas associées. Les fédérations, on ne les appelle pas. On ne sait pas ce qui se passe. Alors, la CAN ne veut pas se limiter seulement à la FIFA et au ministère. On voulait que tout le monde soit associé. Donc, à partir de là, nous sommes prêts.
Voilà, nous étions avec Soumaoro Mamadou, le président de la conférence des présidents de Fédération sportive de Côte d'Ivoire. Dernier mouvement de ce journal, l'invité de la rédaction Francis Kassi reçoit professeur Nguessan Mohamed, enseignant d'histoire contemporaine à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est un rapport aux sujets régionaux dont les présidents ivoiriens et sénégalais affirmaient avoir parlé lors de la récente visite de Macky Sall à son homologue ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan. Entretien donc.
Professeur Nguessan Mohamed, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Le président sénégalais Macky Sall était à Abidjan pour rencontrer son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Alors, il est venu et dit qu'ils ont parlé des problèmes régionaux. Il s'agit de quoi concrètement?
Avant tout propos, il faudrait souligner les liens anciens qui existent entre les deux nations, forgés par deux présidents, Félix Houphouët-Boigny et Senghor. Donc, dans un premier temps, de mon point de vue, Macky Sall s'inscrit dans cette tradition, c'est une visite de courtoisie tendant à raffermir les liens anciens entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Maintenant, la sous-région est en ébullition, vous le savez très bien. Il y a le Niger, au-delà de l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi le cas de l'Afrique centrale avec la question gabonaise. Donc, tous ces dossiers, naturellement, intéressent les chefs d'État.
Prenons le cas de la CEDEAO, le Niger. Il s'agit de quoi concrètement? Parce que la CEDEAO avait menacé, envoyé une force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais jusque-là, c'est le statu quo.
Vous savez que la CEDEAO est à un tournant décisif de son histoire. Et la CEDEAO a le choix entre se présenter comme un éléphant pied d'argile ou une organisation assez forte qui sait se faire respecter. Voilà aujourd'hui le dilemme de la CEDEAO. Si la CEDEAO n'arrive pas à traduire dans les faits ses résolutions, alors sans être un prophète de malheur, il faut craindre qu'il y ait plusieurs pays qui vont connaître la déstabilisation.
Alors donc, vous voulez dire par là qu'après avoir menacé d'aller rétablir l'ordre, la CEDEAO aurait dû prendre ce chemin?
Naturellement. Quand on ne peut pas prendre le chemin, on ne menace pas. La CEDEAO, à un moment donné, a mis un peu d'eau dans sa tasse de thé ou dans son vin, c'est selon, en disant qu'elle allait privilégier les négociations et si les négociations n'aboutissaient pas, naturellement, le dernier recours serait la force. Ok, mais à ce jour, on ne voit rien poindre à l'horizon. Le président Bazoum est toujours séquestrés. C'est vrai qu'on a pris des mesures assez drastiques qui font que la vie de tous les jours au Niger est difficile, mais force est de constater que les putschistes sont encore là et s'enracinent.
Mais est-ce que la CEDEAO ne songerait pas peut-être à user de la voie de la diplomatie?
Bon, certainement, c'est cette voie qu'elle a décidé en dernier recours de privilégier. C'est ce que nous constatons. Et en ce moment-là, on n'aurait pas dû brander la menace de la force et de brander les muscles.
Oui, mais on peut bien brander les muscles, mais si après, on revient peut-être pour faire usage du dialogue.
Ah oui, c'est une bonne chose, mais on se discrédite un peu.
Alors, le passage du président sénégalais Macky Sall ici à Abidjan, il est d'abord allé en France. Et c'est de la France où il a rencontré Macron qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et ça dit qu'il est venu transmettre un message au président ivoirien de la part de la France.
Bon, écoutez, ce sont des supputations, ce sont des hypothèses. Mais je crois qu'il y a plusieurs quand même voies pour le président Macron d'entrer directement en contact avec le président Ouattara. Donc, ce n'est pas écarté, mais moi, je ne privilégie pas cette piste-là.
Maintenant, après leur rencontre, est-ce que le président Ouattara aussi pourrait faire le voyage à Paris?
Bon, attendons de voir.
Alors, par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique, de l'Ouest, comme vous l'avez dit. Comment est-ce que la CEDEAO doit s'y prendre pour éviter le coup d'État qu'elle-même condamne après coup?
La vérité, le problème de la CEDEAO, c'est qu'elle a du mal à d'abord condamner les coups d'État civils. Tant que vous ne serez pas en mesure de condamner les coups d'État civils, il vous serait difficile d'avoir du crédit pour condamner des coups d'État militaires.
C'est quoi vous appelez coup d'État civil?
Oui, mais écoutez, je prends un exemple parmi tant d'autres. Le président Alpha Condé, quand il prépare la Constitution pour un troisième mandat, c'est un mandat obtenu au forceps avec des morts. La CEDEAO ne réagit pas. Mais tout militaire a un prétexte pour justifier un coup d'État. C'est vrai qu'un coup d'État intellectuel que nous sommes, nous le condamnons, mais il ne faut pas prêter le flanc. Comprenez? Alors, tant que la CEDEAO ne veut pas condamner les coups d'État civils, il faut s'attendre à des coups d'État militaires. Mais ce n'est pas souhaitable.
Alors, mais selon vous, pourquoi est-ce que la CEDEAO laisse faire les coups d'État civils pour condamner les coups d'État militaires? Pourquoi?
Ah, mais justement, parce que ceux qui condamnent les coups d'État militaires sont des présidents civils. Tous ne sont pas bien élus. Comprenez? Donc, il y a une solidarité.
De plus en plus, on voit que les populations sont contentes à double les militaires quand ils arrivent au pouvoir.
Mais les militaires, au départ, il y a un discours populiste, mais il faut attendre le long terme pour voir. Quel est le discours que le peuple a envie d'entendre?
Parlant de militaires qui tiennent des discours populistes et autres, un tour au Gabon que vous avez d'ailleurs cité, on a vu que lors du coup d'État au Gabon, les populations vraiment ont dansé.
Oui, le cas du Gabon est un peu particulier. Il y a une famille qui règne depuis environ un demi-siècle. Le Gabon, vous savez, aurait pu être le Dubaï d'Afrique. Ils ont du pétrole, ils ont du bois, ils ont du manganèse, une population peu nombreuse. Mais vous serez surpris si je vous dis qu'au Gabon, dans certaines régions, il n'y a même pas l'eau courante. Alors que la famille régnante accumule la richesse. Naturellement, quand un coup d'État survient dans un tel pays, tout à fait, le peuple est en droit de se réjouir et de s'attendre à des lendemains meilleurs. Donc c'est un cas particulier, le Gabon.
Professeur Nguessan Mohamed, je vous remercie.
Merci infiniment.
Voilà. Professeur Nguessan Mohamed, enseignant d'histoire contemporaine à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, était avec Francis Okassi dans le cadre de l'invité de la rédaction Valakir FM, les pages de ce journal. Le rappel des deux principaux titres qui l'ont guidé. L'ONG Indigo Côte d'Ivoire a organisé à Bouna un atelier de restitution des travaux d'études sur la cohésion sociale dans le cadre de son projet initiative de paix autoporté dans les régions frontalières de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso et le Ghana. Et bien des leaders communautaires et des unités de défense et de sécurité ont à l'occasion élaboré des pistes d'action à mener pour le maintien durable de la paix et de la cohésion sociale dans la région. Enfin, dans l'actualité internationale au Mali, la mission de l'ONU dans le pays a entamé son retrait définitif de Kidal. Et c'est la fin de ce mardi midi sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. L'événement sportif était attendu par tous les amoureux du football et surtout par les médias, et la presse ivoirienne ne fait pas exception.